200 000 personnes ont été contaminées par le nouveau coronavirus. Le seuil a été franchi cet après-midi, selon le décompte en temps réel en ligne réalisé par l'université Johns Hopkins. Pour autant, l'OMS n'a toujours pas déclaré l'état de pandémie qui avait pourtant été déclaré pour la grippe H1N1. Alors pourquoi et comment une épidémie se déclenche-t-elle au niveau viral? Quels moyens pour la contenir? Comment s'organise la recherche tant sur le virus que sur un remède? Que faire lorsque les barrières de confinement tombent les unes après les autres? Édition spéciale aujourd'hui consacrée à cette épidémie de Covid-19. Coronavirus, comment contenir une épidémie? C'est le programme spécial qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Émission spéciale avec notre partenaire Sciences et Avenir, Olivier Lascar, bonjour.
Oui, bonjour Nicolas, bonjour à tous et à toutes.
Rédacteur en chef du pôle numérique qui suit également de très près toute la recherche et les travaux scientifiques autour de ce nouveau coronavirus. On va partager des liens sur notre fil Twitter qui renvoie justement à ces pages et à ce travail de suivi que vous avez fait à Sciences et Avenir. Et pour faire un point scientifique complet ici même sur cette maladie, 3 mois déjà après le début officiel de l'épidémie, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Fontanet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Santé globale à l'Institut Pasteur et professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Et Anne-Claude Crémieux, bonjour.
Bonjour.
Professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et on commence justement avec les dernières informations sur le coronavirus et toute l'actualité scientifique de la semaine avec Natacha Triou et le Journal des sciences. Bonjour Natacha.
Bonjour Nicolas.
Selon une étude chinoise donc parue dans National Science Review, le coronavirus aurait muté.
Cette étude de phylogénétique fait beaucoup parler d'elle. Selon les chercheurs de l'université de Pékin, 2 souches du nouveau coronavirus se répandent dans le monde. Ils ont analysé 103 séquences de ce Covid-19 et ils ont trouvé des mutations communes à 2 endroits du génome. Selon eux, le virus se partagerait en 2 types, L et S. L serait un dérivé de l'ancien type S et serait présent à 70%. Alors ces mutations, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des erreurs pendant la réplication du matériel génétique. Tous les virus mutent, mais avant de s'inquiéter, tout dépend de l'ampleur de la mutation. Donc, existe-t-il 2 souches, dont une plus mortelle? Isabelle Imbert est enseignante-chercheur à Aix-Marseille Université et travaille sur les coronavirus depuis 2004. Selon elle, les différences entre les 2 souches sont si minimes qu'on ne peut même pas parler de souches distinctes.
Si on va dans les conclusions, en fait, ils disent que donc sur ces 103 séquences, ils ont trouvé que 2 différences au niveau génomique, au niveau des nucléotides. Et après, donc les nucléotides, on va dire, vont coder des protéines. Et sur ces 2 différences, il n'y aura qu'une seule différence au niveau protéique. Il n'y aura qu'un seul changement. Donc bon, ok, je trouve qu'ils tirent des conclusions, on va dire, très fortes face à des faits qui sont quand même très limités par rapport à toutes les séquences qui ont été publiées, qui sont dans le domaine public de ce Covid. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une très 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 forte conservation, 99,98%, avec de façon générale quelques 5 à 10 nucléotides de différence. Donc après, si je peux me permettre une caractéristique dont on parle peu de façon générale sur les coronavirus. Donc en fait, c'est une famille de virus assez exceptionnelle parce que donc ils contiennent un génome qui est ARN, mais ils ont une taille qui est complètement inhabituelle. C'est-à-dire que la taille du génome est autour de 30 000 nucléotides. Il faut savoir que chez tous les virus ARN, la taille moyenne est entre 10 à 12 000 nucléotides. Les coronavirus ont arrivé au fil de l'évolution à conserver une telle longueur, donc 30 000 nucléotides, parce qu'ils ont acquis dans leur génome un mécanisme qu'on appelle de relecture ou proofreading en anglais, qui permet de corriger les erreurs lors de la réplication. Et donc ça, c'est un gros avantage dans la lutte contre les coronavirus, parce qu'ils sont très fidèles dans leur réplication. Ça veut dire que si on arrive à trouver une molécule antivirale, les risques de sélectionner des mutants qui échapperaient au traitement sont plus faibles que, par exemple, le VIH.
Voilà, peut-être un petit mot, un commentaire à Arnaud Fontanet sur cette double souche.
Alors c'est effectivement un papier qui fait beaucoup de bruit. Je suis tout à fait d'accord avec votre intervenante qu'il faut minimiser la portée. D'une part, la réalité des deux lignées est contestable, même si on pourrait l'accepter. Mais surtout, on ne peut pas dire sur la base des analyses phylogénétiques, par exemple, que cette nouvelle lignée serait soit plus transmissible, soit plus virulente. Donc pour l'instant, on a plutôt l'image d'un virus qui mute peu.
Anne-Claude Crémieux, un mot aussi ?
Oui, effectivement, dans ce papier, rien n'indique qu'il y ait une virulence plus importante. Ça n'est qu'une constatation de petites différences, d'après ce que j'ai compris, assez ponctuelles.
Voilà, on va revenir évidemment à tout ça dans notre émission spéciale du jour, donc consacrée à cette épidémie de Covid-19. En bref, Natacha, l'un des mystères fondamentaux de la chimie vient d'être résolu. Une équipe internationale révèle la structure électronique du benzène.
Et la structure atomique du benzène est assez bien comprise, hein, 6 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Mais lorsque l'on considère les 42 électrons de la molécule, cela se complique. Depuis 1930, le comportement des électrons du benzène fait débat chez les chimistes. Selon une étude parue dans Nature Communication, la description mathématique de la structure électronique du benzène doit prendre en compte 126 dimensions. Les chercheurs ont utilisé une approche algorithmique pour cartographier la fonction d'onde des 126 dimensions. Conclusion, le benzène ne suit ni la théorie de la liaison de valence avec des électrons localisés, ni la théorie de l'orbital moléculaire avec des électrons délocalisés. Cette découverte aura des implications importantes pour le développement de matériaux optoélectroniques.
Deuxième sujet de ce journal est les ravages de la communication médicale. Une fois de plus, une start-up française aurait fait une découverte majeure pour la lutte contre le VIH.
Oui, cela a fait les gros titres toute la semaine. Les travaux de cette équipe ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Investigation et toute la presse française a qualifié cette étude de révolutionnaire. Alors, ce papier présente la découverte d'une enzyme qui serait la responsable du dysfonctionnement du système immunitaire des personnes infectées. Alors, depuis longtemps, on sait que le virus s'attaque aux lymphocytes TCD4. Et selon cette start-up, l'enzyme PLA2G1B, que notre pancréas produit, travaillerait en alliance avec le virus pour altérer l'immunité lymphocytaire. L'entreprise a aussi déclaré qu'elle est en train de développer un anticorps pour neutraliser cette enzyme et donc pour inverser les effets. Dominique Costagliola est directrice de recherche à l'INSERM et travaille sur le VIH depuis 1986. Selon elle, ce travail reste très, très lacunaire.
Basé sur des prélèvements chez des patients virémiques et on nous dit que c'est 5. Donc on ne sait pas trop leurs autres caractéristiques, on ne sait pas trop quel niveau de CD4 ils avaient, enfin on ne sait rien trop sur ces participants sur lesquels ce mécanisme a été décrit. Après, pour ce qui est de la perspective thérapeutique, je pense pas que ce soit si grand que ça, parce que comme les auteurs le disent eux-mêmes dans leurs discussions, ils ont montré que l'activité de l'enzyme là qu'ils avaient mis en évidence n'existait qu'en synergie avec une des protéines du virus. Et ils ont aussi montré que donc chez des personnes soit qui contrôlent spontanément l'infection à VIH, qu'on appelle des HIC, des contrôleurs, des gens qui sans traitement contrôlent l'infection à VIH et gardent des CD4 relativement élevés, ou chez des personnes qui sont sous traitement, il n'y avait pas l'activité de l'enzyme. Probablement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de virus. Donc chez ceux-là, comme il n'y a pas l'activité, il n'y a pas besoin d'un anticorps contre l'enzyme pour contrer une activité qui n'existe pas. Et justement, chez ces gens-là, on ne trouve pas l'activité de l'enzyme en question. C'est bien la preuve que c'est pas le mécanisme. Donc ça ne peut pas être l'explication, mais parce qu'il n'y a pas une explication. Il y a tout un tas de mécanismes qui vont concourir à cette situation. Et vouloir me vendre ça comme ça va révolutionner le traitement, dans certains cas ça pourrait être vrai, mais longtemps après qu'on en ait parlé, mais dans celui-là je vois pas de perspective du tout, surtout quand c'est associé à une start-up qui a besoin de lever des fonds.
En bref, une entreprise israélienne est en train de créer une peinture capable de convertir la chaleur en froid.
Une peinture qui, lorsqu'elle est exposée au soleil, refroidit la surface sur laquelle elle est appliquée. Une première couche laisse passer les longueurs d'onde du soleil, puis le matériau utilise la fluorescence anti-stox des photons et des phonons. À l'intérieur d'une voiture exposée en plein soleil, on peut facilement grimper jusqu'à 60 degrés. Avec cette peinture, l'intérieur du véhicule pourrait rester au frais dans les 25 degrés. Des tests sont bientôt prévus et cette technologie devrait être opérationnel en 2021. Convertir les radiations solaires pour rafraîchir les immeubles, cela pourrait être une alternative aux climatiseurs, avec pour unique source d'énergie le soleil.
Cette semaine, dans le Journal des Sciences, tout au long de la semaine, Natacha, il a été question de la journée de mobilisation hier des universités contre le projet de loi de programmation de la recherche. On a vu comment la pollution de l'air a un bilan beaucoup plus lourd que ce que l'on imagine, et même plus que le tabagisme. Nous avons parlé de la découverte d'une étrange étoile naine blanche double et de la crise des opioïdes aux États-Unis, de 100 000 décès non recensés. Également dans l'actualité des sciences cette semaine, Natacha, et en ultra bref.
Le docteur Jacques Liebovitch est décédé mercredi à l'âge de 77 ans. En 1981, il est l'un des premiers chercheurs à se mobiliser contre le sida en France. Très rapidement, il évoque la piste d'un rétrovirus et il suspecte la possibilité d'une contamination par le sang. Pionnier du dépistage du VIH, les recherches de cet immunologiste ont été majeures pour la connaissance du virus et pour le traitement des malades. Copernicus, le service du suivi climatique européen, l'a confirmé. L'hiver 2019-2020 est l'hiver le plus chaud jamais enregistré en Europe. Les températures ont été supérieures de 3,4 degrés par rapport aux températures moyennes. En France, dans l'histoire des relevés météorologiques, ce mois de février 2020 a aussi été le plus chaud après le mois de février 1990. Et enfin, la NASA a dévoilé le nom du rover pour la future mission sur Mars. Persévérance. Ce nom a été choisi et voté par plus de 28 000 élèves américains parce que, je cite, « les êtres humains feront toujours preuve de persévérance dans l'avenir ». Ce cinquième rover martien aura pour mission la recherche de traces de vie sur la planète et la traque de la moindre molécule organique. Il devra aussi rapporter sur Terre ses échantillons. Le rover Persévérance décollera en juillet prochain.
Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable qui nous prouve que la science travaille parfois sur des choses moins essentielles et qui nous permet également de rire parfois un peu aux dépens des scientifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est une mission que vous avez, Natacha, et je sais que vous êtes en train de regretter que ce moment de gêne qui est le vôtre, puisque vous allez nous parler d'anus connecté.
Alors on va parler de la création de la première télécommande anale. Alors c'est une performance d'un artiste néerlandais qui a eu lieu dans The Lab for the Unstable Media à Rotterdam. Et l'artiste a voulu créer un système d'interface révolutionnaire alimenté par des électrodes anales. C'est un clin d'œil à l'Internet des objets. Ce prototype s'appelle Behind, l'innovation intime. Et une sonde anale a été programmée pour réagir aux contractions du sphincter, ce qui permet de piloter un petit robot. Avec ce même type d'électrode, l'artiste a aussi réussi à jouer de la musique. Je ne sais pas si c'est le futur du kit main libre. Je ne le pense pas.
Peut-être un autre rapport à votre téléviseur dans les années à venir. Merci beaucoup, Natacha.
Je vous en prie.
On se retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. Il est 16h13 sur France Culture, 3 mois après le début officiel donc de l'épidémie de Covid-19. On fait le point aujourd'hui sur l'ensemble des connaissances scientifiques autour de ce virus émergent et sur les réponses à apporter à une éruption épidémique d'une telle ampleur, puisque je vous rappelle que le seuil des 100 000 contaminations a été dépassé cet après-midi selon le décompte en temps réel produit par l'université américaine Johns Hopkins. Émission spéciale en partenariat avec nos camarades de Sciences et Avenir, Olivier Lascar qui est à mes côtés pour interroger mes invités tout au long de cette heure, Arnaud Fontanet, directeur de santé globale à l'Institut Pasteur et professeur au CNAM, et Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Pour commencer, peut-être peut-on simplement rappeler ce qu'est ce SARS-CoV-2, puisque c'est le nom du virus, du coronavirus, Covid-19 étant le nom de la maladie, un peu comme le VIH et le sida, comme vous le mentionniez tout à l'heure, Arnaud Fontanet. Donc, qu'est-ce que c'est que ce SARS-CoV-2 exactement? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en connaît?
Alors en fait, on a appris très vite par la séquence complète du génome qui avait été déposée par des scientifiques chinois dès le 10 janvier, c'est-à-dire à peine 3 semaines après les premiers cas vraiment actifs dans la région de Wuhan. On est devant ce qu'on appelle un bêta-coronavirus. C'est une famille à laquelle appartient, par exemple, le SRAS, qu'on connaît bien de 2003.
Le syndrome respiratoire aigu sévère.
Syndrome respiratoire aigu sévère qui avait sévi dans le sud-est de la Chine, responsable aussi de pneumopathie. Ce nouveau coronavirus est à 80% identique à celui du SRAS. Il est, comme on le disait, c'est un virus ARN très grand, à 30 000 bases.
C'est quoi la différence entre un virus ARN et un virus ADN, par exemple?
Alors, là où ça devient intéressant pour nous, c'est que dans la façon de se répliquer, dans la reproduction, eh bien, le virus ARN, lui, n'a pas de méthode de correction des erreurs qu'il peut faire pendant ses copies, et du coup, les mutations sont plus fréquentes. Même si pour celui-là, il y a une correction partielle qui s'exerce, mais bref, par rapport à un virus ADN qui est plus stable, on s'attend, pendant les périodes de multiplication du virus, à ce que des mutations apparaissent, et c'est une des choses que l'on est en train de surveiller. Alors, ce qui nous intéressait par rapport à ce nouveau coronavirus, c'est un peu de savoir d'où il vient. On sait que c'est un bêta-coronavirus, que typiquement, ils sont retrouvés chez les mammifères. Donc, c'était des pistes qui ont été suivies quand on a voulu comprendre d'où il avait pu arriver, puisque on est dans le contexte, comme vous le savez tous, d'une épidémie qui a débuté dans une ville, près d'un marché où s'étaient vendus des animaux. Et donc, déjà, il y avait cette recherche d'une source possible parmi des mammifères qui auraient été vendus. Malheureusement, le marché a été fermé, les animaux ont disparu. Et ça n'est que par les enquêtes aujourd'hui qu'on essaye de retrouver la trace. Alors, pour en dire un petit peu plus, on sait qu'il y a un virus chez la chauve-souris qui est à 96% identique. Ça, c'était la même chose avec le SRAS. On avait aussi un virus dans la chauve-souris. Mais on sait aussi que c'est pas ce virus qui est arrivé chez l'homme, parce que dans des régions très particulières qui codent pour les protéines qui permettent au virus de rentrer dans les cellules humaines, et ben sur le virus de la chauve-souris, il y a des différences importantes qu'on retrouve pas par rapport au virus de l'homme. En revanche, il y a un petit mammifère, le pangolin, qui lui a aussi un coronavirus proche de ce nouveau coronavirus, et justement dans cette région qui code pour les protéines qui rentrent dans les cellules humaines, là les similitudes avec le virus humain sont très fortes.
Anne-Claude Crémieux, comment ça marche? C'est-à-dire comment est-ce que ce virus infecte aujourd'hui les êtres humains? Est-ce qu'on connaît les mécanismes d'infection qui provoquent la maladie Covid-19?
Alors, on sait que la transmission se fait par les gouttelettes, les gouttelettes qui sont infectantes, et donc par des contacts dits proches, on parle de 1 à 2 mètres, et aussi éventuellement par les objets contaminés, puisque nous savons que le virus peut persister plusieurs heures et même plus sur les objets qui auraient été touchés par quelqu'un qui aurait les mains avec du virus dessus, d'où les précautions d'ailleurs qu'on prend, qui soient à la fois respiratoires, les masques et les gels hydroalcooliques pour les mains. On sait que on peut commencer une infection par des symptômes assez banals et finalement peu sévères. C'est ce qu'on a découvert un petit peu dans la deuxième phase de l'épidémie, parce que au début, vous vous rappelez, cette épidémie a été détectée parce que on a retrouvé des pneumonies sévères. C'est un système de surveillance mis en place en Chine à cause du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. Donc d'abord on décrit des pneumonies sévères, et ensuite on connaît mieux maintenant le spectre de cette maladie, qui peut commencer par des symptômes assez banals, qui sont une douleur pharyngée, puis de la toux, et qui peuvent ensuite, à la fin de la première semaine en général, donner une infection pulmonaire avec de la fièvre.
Olivier Lascar.
Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la contagiosité de cette maladie? Depuis le début, on dit que cet indice qui correspond à sa propension à passer d'un individu à l'autre, elle est plus important qu'avec la grippe saisonnière, par exemple. Est-ce que c'est un vecteur d'inquiétude particulier, la contagiosité de ce coronavirus?
Le fameux R0.
Voilà, le fameux R0, c'est le nombre de reproductions de base. Alors, je vois effectivement des chiffres qui circulent sur la grippe qui sont un peu plus bas que ceux que j'avais l'habitude de voir. On va pas trop s'attarder là-dessus. On peut dire, globalement, que par rapport au R0, le nombre de reproductions de base, il est de l'ordre de 2, que ce soit pour la grippe, que ce soit pour ce nouveau coronavirus, ou pour le coronavirus du SRAS, par exemple. Ce qui est important, plutôt, c'est est-ce qu'on est capable, avec des mesures de contrôle, de faire descendre ce nombre de reproductions en dessous de 1, puisque si le nombre de reproductions de base, donc c'est le nombre de personnes qu'un malade va infecter, quand il est de 2, ça veut dire qu'une personne malade va infecter 2 personnes, et bien sûr le but avec les mesures de contrôle, c'est de ramener ce nombre en dessous de 1, puisque si chaque malade infecte moins d'une personne, l'épidémie s'arrêtera. Avec le SRAS, c'était possible. Pourquoi c'était possible avec le SRAS? Parce que le SRAS était contagieux 4-5 jours après le début des symptômes, et de fait, on avait le temps. Quand les malades commençaient à déclarer des symptômes, à les diagnostiquer, les mettre en isolement avant qu'ils aient contaminé d'autres personnes. Et avec le SRAS, autre élément, les gens ne faisaient que des formes sévères de la maladie, à la différence d'ailleurs de ce nouveau coronavirus. Du coup, on passait pas à côté de cas. Là, avec ce nouveau coronavirus, on a une contagiosité qui débute dès le début des symptômes, voire un peu avant, et on a des formes mineures de la maladie. Et de fait, ramener ce 2 ou 2,5 de nombre de reproductions en dessous de 1 par des mesures de contrôle devient beaucoup plus difficile parce que les gens sont contagieux avant d'être mis en isolement et parce qu'il y a des gens qui ont des formes mineures qui vont débuter des chaînes de transmission sans avoir été repérés et isolés du tout.
Le R0 a été augmenté cette semaine et aujourd'hui le chiffre qui semble faire consensus est de 3,28. Il a été ramené à 3,28.
Non, je resterai prudent là-dessus. D'accord. Parce que bon, je suis dans des conférences de consensus de modélisateurs, etc. Et franchement, le chiffre qui circule est entre 2 et 2,5. Une fois de plus, le R0, c'est en absence de mesures de contrôle. Ça peut varier aussi selon les endroits où vous le mesurez, parce que ça dépend de la densité des populations, des contacts humains, etc. Et voilà, on est plutôt dans cet ordre de grandeur. Après, je suis d'accord avec vous, on apprend beaucoup sur ce nouveau virus. Et ce qu'on raconte aujourd'hui peut s'avérer faux demain, parce qu'on va avoir des nouveaux éléments qui, sur des recherches un peu plus fines qui vont être menées. À ces sujets.
Moi, j'aimerais vous poser une question tout de même au niveau... Aujourd'hui, on connaît le chemin moléculaire qui arrive et qui produit l'infection et qui produit la maladie. On sait exactement comment le SARS-CoV-2 infecte les cellules pulmonaires, à quel endroit, comment ça marche en fait, le mécanisme cellulaire.
Alors en tout cas, ce qu'on a retrouvé, c'est le récepteur qui s'appelle ACE2, qui est un récepteur qui est présent sur les cellules respiratoires, l'épithélium respiratoire. C'était le même que pour le SRAS. C'est pas le même pour le MERS d'ailleurs, puisqu'il y a un autre coronavirus qui circule dans les pays du Golfe, mais voilà. Et donc c'est ainsi effectivement que se fait l'infection. Maintenant, là, et ça je vais peut-être laisser ma collègue commenter là-dessus, sur où l'infection débute, si elle descend, si elle monte, et les comparaisons avec le SRAS, les choses ne sont pas exactement identiques à celles qu'on avait pu connaître pour le SRAS.
Anne-Claude Crémieux.
Alors effectivement, comme on l'a dit, donc les symptômes peuvent être des symptômes, ce qu'on appelle nous des voies aériennes respiratoires supérieures, c'est-à-dire la gorge, c'est-à-dire le nez. Et ce qui fait d'ailleurs, ce qui est un avantage en termes de diagnostic, puisque on trouve ce virus dans les prélèvements nasaux. Pharyngé. Après, effectivement, on l'a dit, la forme habituelle, c'est une pneumonie qui d'ailleurs est souvent, et nos collègues chinois se sont beaucoup aidés du scanner pulmonaire pour faire des diagnostics, parce que au scanner, ils ont décrit, ils ont fait une belle description des images évocatrices. Est-ce que ça peut toucher d'autres organes? On sait qu'il peut y avoir des formes digestives avec des diarrhées et qu'effectivement les selles, alors c'est beaucoup moins fréquent que le SRAS, mais que les selles peuvent être aussi contaminantes. Et quant à la présence du virus dans le sang, elle est quand même assez rare d'après les éléments que nous avons, mais nous savons que ça peut exister et que c'est peut-être lié à la sévérité de la maladie.
Une question peut-être justement sur cette notion de sévérité. Aujourd'hui, on sait combien de pourcentage de personnes contaminées développent des formes sévères. Alors on sait que c'est plutôt les personnes âgées. On sait par exemple que les enfants ne développent quasiment que des formes bénignes. Est-ce qu'on comprend ces raisons-là, Anne-Claude Crémieux?
Alors, je peux vous dire ce qu'on sait. Je ne peux pas vous expliquer. Ce qui est vrai, c'est que quand on regarde les publications, et là c'est vraiment une constante, les publications de gens qui ont l'habitude, c'est-à-dire en Chine, et qui en ont vu beaucoup, les enfants sont peu touchés. Et lorsqu'ils sont touchés, ils font des formes bénignes, voire asymptomatiques. On sait aussi le profil des patients qui risquent de faire des formes sévères. Et là, c'est vrai que c'est assez familier pour nous parce que ça se rapproche du profil des patients qui font des grippes plutôt sévères, c'est-à-dire des gens qui sont plus âgés et qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies de type cardiovasculaire, respiratoire ou diabète.
Alors néanmoins, on peut pas dire que les seules personnes qui sont confrontés à la mortalité par rapport à cette maladie, ce sont les gens âgés, puisqu'on a tous été énormément frappés par le décès du médecin chinois qui faisait partie des lanceurs d'alerte au tout début de cette épidémie. Comment expliquer que des personnes jeunes puissent aussi tomber malades et parfois mourir?
Alors, bien évidemment, ce qu'on a, ce sont des fréquences. C'est-à-dire qu'on peut vous dire qu'effectivement, c'est plus sévère chez les personnes qui sont plus fréquemment âgées et qui ont des pathologies cardiovasculaires cellulaire. Comme vous le savez, en médecine, ça n'empêche pas que des gens jeunes puissent décéder, mais c'est beaucoup moins fréquent que les gens âgés. Par ailleurs, il est vrai qu'on ne connaît pas, bien sûr, l'état de santé des gens jeunes qui sont décédés. Donc, c'est difficile de porter une appréciation à distance.
Peut-être un mot aussi, parce qu'on a parlé du R0, c'est-à-dire du taux de contamination, un mot sur le taux de mortalité. Aujourd'hui, si on se base sur les chiffres statistiques donnés par l'université de Johns Hopkins, il y a 100 330 personnes contaminées pour 3 408 morts, ce qui fait un taux de mortalité de 3,4%. Est-ce que ça a un sens de considérer ce taux de mortalité de façon globale, en sachant qu'effectivement, il est extrêmement différent en fonction des tranches d'âge et de l'état de santé général? Arnaud Fontanet.
Alors, on ne peut pas le calculer en instantané, parce que les personnes qui sont amenées à décéder, ils vont le faire dans les 2 ou 3 semaines après l'infection, et du coup, vous ne pouvez pas rapporter ces 2 chiffres directement. D'une façon générale, en utilisant des outils de modélisation simples qui permettent d'ajuster pour ces délais, on estime aujourd'hui que le taux de létalité, c'est comme ça qu'on l'appelle pour ce qui est du nombre de décès par personne infectées serait autour de 1% à 2% pour les formes cliniques. Mais ce qui est important, c'est pour les formes cliniques, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est ce que nous on appelle la partie immergée de l'iceberg. Ce seraient tous les gens qui ont des formes si peu symptomatiques, voire sans aucun symptôme, qui du coup n'auraient pas consulté, mais en étant tout de même infectés. Et quand on aura la possibilité de faire des enquêtes, par exemple avec des dépistages d'anticorps qui témoigneront d'une infection passée, que vous ayez ou non des symptômes, on aura un vrai dénominateur. Et là, il faudra rapporter le nombre de décès à ce dénominateur. Et on verra ce fameux 1% descendre. Alors, je peux pas vous dire où il s'arrêtera. La grippe saisonnière, c'est 1 pour 1000. Ce sera entre les deux. Mais la sévérité actuelle de la maladie, c'est surtout parce que on voit des formes cliniques qui sont les formes les plus sévères.
Un élément frappant concernant la mortalité qui nous vient là encore de Chine, c'est qu'il y a des différences importantes entre l'épicentre de l'épidémie, c'est-à-dire Wuhan et la province de Hubei, et d'autres provinces en Chine. Par exemple, dans d'autres provinces de Canton, par exemple, le taux de mortalité était inférieur à 1%. Et ce que l'on pense, c'est que la surcharge du système de santé a aussi joué dans le taux de mortalité de 2%. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous, un enjeu énorme, c'est de faire que notre système de santé ne soit pas surchargé, ne soit pas submergé, de façon à ce qu'on puisse diminuer cette mortalité.
Il y a une question, une étrangeté en tout cas dans la façon dont se répand cette maladie et cette épidémie, c'est la différence entre ce qui se passe ici en France et ce qui se passe en Italie. Les chiffres sont très 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 distincts, puisque en France on a aujourd'hui, au moment où je parle, 423 cas recensés et 7 décès. En Italie, 3858 cas pour 848 décès. J'ai bien entendu qu'on ne peut pas rapporter le nombre de décès au nombre de cas, mais enfin, on passe quand même de 1,65% à 22%. Qu'est-ce qui se passe en Italie?
Alors, en Italie, rappelez-moi vos chiffres.
3858 cas pour 848 morts.
Oui, donc ils ont hier encore. Moi, j'ai pas suivi les chiffres d'Italie.
Je vais vérifier en direct. Je vais vous le dire. En tout cas, c'est très
élevé. Ce qui est en train de se passer, c'est passé hier déjà quand on m'a annoncé les 100 décès de l'Italie. Mais ce qu'il faudrait d'abord regarder, c'est l'âge de la population touchée, parce qu'il y a une telle influence de l'âge sur le risque de décéder.
C'est 148 morts, c'est pas 848, c'est moi qui
rassurez beaucoup.
Je suis allé un peu trop, donc c'est 148 morts.
Et alors, si on fait nos fractions, on tombe plutôt à 3%.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, si on tombe à 3%, là, je dirais, prenons un peu de recul, parce que si, par exemple, la population qui a été touchée est une population un peu plus âgée qu'ailleurs, vous allez avoir tout de suite des taux de létalité qui vont augmenter beaucoup, parce que c'est effectivement très sensible à l'âge. Donc là-dessus, je resterai sur... restons sur cette idée, et puis une fois de plus, attendons de voir la partie immergée de l'iceberg, parce que là, on aura peut-être des surprises plutôt rassurantes.
Olivier Lascar.
Il y a un terme qui a surgi, je trouve, un petit peu médiatiquement dans les papiers de Sciences et Avenir et ailleurs à propos de cette crise, c'est à propos de la contagion et du fait que toutes les personnes ne sont pas égaux face à la diffusion de la maladie. Et on a vu apparaître ce terme de super transmetteur à propos de personnes qui vont diffuser la maladie à plein de gens autour d'eux, alors que leur voisin qui sera aussi atteint du coronavirus ne sera pas contaminant. Qu'est-ce que sont ces super transmetteurs?
Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà connu avec le SRAS, mais même à une échelle très différente. Avec le SRAS, il y avait eu des individus qui avaient infecté jusqu'à 50, voire 100 personnes. Ça avait été le démarrage de l'épidémie dans l'hôpital de Canton le 30 janvier 2003, où un individu avait massivement infecté le personnel soignant et puis les malades de l'hôpital, et l'épidémie était devenue complètement hors de contrôle. Là, on voit pas exactement la même chose. On voit quelques individus qui vont effectivement infecter 5-10 personnes. Je reprends l'exemple de ce Britannique qui était revenu de Singapour et qui, sur son retour au Royaume-Uni, a infecté, comme on le sait tous en France, on contamine 6 personnes finalement, puisqu'il y en a une qui s'est déclarée un peu plus tard, puis 4 autres personnes qui étaient retournées aussi avec lui au Royaume-Uni, bref, d'autres qui sont partis en Espagne, une dizaine de personnes. Ça, on le voit. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui ont dans les... au niveau du nez et de la gorge, des concentrations virales extrêmement élevées dans les voies aériennes supérieures, comparé même à d'autres virus qu'on a l'habitude d'échantillonner et de regarder. Et très vraisemblablement, ces personnes qui ont des concentrations virales très élevées, qui ne s'accompagnent pas nécessairement d'ailleurs d'un tableau clinique très fort, vont être ces fameux super transmetteurs. Alors bon, heureusement, ça reste l'exception hein, plutôt que la règle, mais ça peut expliquer des chaînes de transmission un peu exceptionnelles qui ont été observées.
Anne-Claude Crémieux sur ce sujet.
Oui, il y a deux aspects. Il y a effectivement le possible lien entre la charge virale et la transmission qui est en cours d'exploration, comme vous l'avez tout à fait bien dit. Et puis, il y a le deuxième aspect qui est ce qu'on pourrait appeler les circonstances qui vont favoriser la transmission. Donc, ces circonstances, c'est sûr, c'est l'aspect contamination nosocomiale, contamination hospitalière, parce que là, effectivement, c'est la rencontre entre un soignant en général et puis des personnes très sensibles, qui sont des personnes malades, âgées, et qui effectivement peuvent là amplifier une chaîne de contamination.
J'aimerais juste en un mot peut-être, parce que je ne crois pas qu'on l'ait mentionné, qu'on rappelle le nombre de personnes qui développent la forme sévère de la maladie par rapport à l'ensemble des personnes qui sont contaminées. On a des proportions, Arnaud Fontanet ?
Alors on a des idées, une fois de plus, de celles qui ont des formes cliniques. Hein, donc de celles qui forment des formes cliniques, 80%, donc la très grande majorité, c'est des formes bénignes. Vous aurez 15% qui vont faire des pneumopathies, qui vont nécessiter une hospitalisation, et 5% qui feront des formes sévères.
Et des gens qui guérissent aujourd'hui, de toute façon, guérissent spontanément. En fait.
Vous aurez à la fin 1% de décès de ce qu'on sait aujourd'hui, et les autres vont guérir, et pour l'immense majorité, sans le moindre séquelle.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
À 16h30 sur France Culture, émission spéciale consacrée à cette épidémie de Covid-19 en partenariat avec nos camarades de Science et Avenir. On va remonter en fait la question qui me semble intéressante aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment démarre une épidémie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'à un moment donné, finalement des virus qui mutent dans la nature, il y en a tout le temps, ça ne cesse de muter, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ce virus qui va contaminer une personne va créer un foyer épidémique ? Arnaud Fontanet.
Alors, question difficile. Ça commence souvent pour ces virus, c'est ce qu'on appelle des zoonoses, c'est des virus qui vivent dans le monde animal et puis qui, à un moment ou à un autre, vont faire ce qu'on appelle franchir la barrière d'espèce. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça passe ? Et c'est tout ce qu'on racontait tout à l'heure sur ce fameux pangolin qui a été très bien étudié avec la fameuse civette palmiste masquée qui avait transmis le SRAS, à savoir que dans cette chaîne de circulation d'un coronavirus entre chauves-souris, autres animaux, on arrive à la civette palmiste masquée. Et de façon assez curieuse, un coronavirus qui était adapté au récepteur cellulaire de la civette palmiste masquée, en simplement 2 mutations, était adapté au même récepteur chez l'homme. Du coup, ce virus qui attendait chez la civette palmiste masquée, s'il rencontrait un homme, très facilement, en 2 mutations, était adapté, pouvait se transmettre à l'homme, et là, la barrière d'espèce est franchie. Après, quand il est chez l'homme, eh ben, le virus commence à se multiplier, etc. Alors, il peut arriver que ça ne débouche sur rien, le virus est défectueux chez l'homme, il n'arrive pas à se transmettre d'homme à homme. C'est d'ailleurs la majorité de ces événements de franchissement de barrière d'espèce, où rien ne se passe derrière. Ou alors, à force de mutation, finalement, il s'adapte bien à son nouvel hôte, qui est l'homme, et puis, éventuellement, il va commencer à se transmettre de personne à personne, et là, vous avez les conditions réunis pour le démarrage d'une épidémie.
Anne-Claude Crémieux ?
Oui, je crois que c'est effectivement un enjeu extrêmement important. C'est cette surveillance entre le monde animal et le monde humain. C'est valable pour les virus émergents, c'est exactement la même chose pour le problème des gènes de résistance aux antibiotiques. On sait qu'il y a énormément de gènes de résistance dans l'environnement ou dans le monde animal. On sait qu'il y a aussi énormément de virus dans le monde animal. Notre question, c'est d'essayer de comprendre, de savoir, et on ne le sait pas aujourd'hui, quel va être celui qui va être capable de franchir avec succès la barrière d'espèce et finalement se multiplier de façon efficace chez l'homme.
Mais en termes d'épidémiologie, on parle souvent du patient zéro. Le patient zéro, c'est plus un fantasme qu'une réalité. On imagine bien que pour qu'une épidémie démarre, ça ne commence pas par une personne infectée, puis deux, puis ensuite une augmentation exponentielle. Il y a plusieurs contaminations dès le départ, ou est-ce qu'au contraire, il y a une réalité du patient zéro, Arnaud Fontanet ?
Alors vraiment, le patient zéro, déjà, on ne l'a jamais trouvé. Ça aurait été dans cette histoire, admettons que ce soit le pangolin, ce n'est pas confirmé, et ça pourrait être un autre animal proche, mais bref, admettons qu'il y ait eu un jour un passage, effectivement, dans un marché. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y aura eu certainement plusieurs tentatives qui ont échoué avant. Et c'est un jour, par un phénomène, alors qu'on ne sait pas répondre, on dit stochastique, c'est un mot qui fait tout de suite savant, et un phénomène stochastique aléatoire qui a permis à ce qu'une des chaînes de transmission, au lieu de s'interrompre immédiatement, continue. Ce qui est intéressant, c'est quand on retourne maintenant sur l'expérience du SRAS, si vous alliez dans les marchés de canton et que vous faisiez une recherche d'anticorps contre le coronavirus du SRAS aux personnes qui travaillaient dans ces marchés, 40% en avait, alors que quand on les interrogeait, aucun d'entre eux n'avait fait de pneumopathie particulièrement sévère dans les semaines, mois ou années précédentes. Ce qui traduisait donc que le virus, il avait tenté plusieurs fois de sortir, il avait infecté, il avait donné probablement des infections bénignes parce qu'il n'était pas encore adapté à son nouvel hôte. Ça n'avait pas abouti à une transmission d'homme à homme, mais ça avait pu déboucher sur une séroconversion, une fabrication d'anticorps. Et on sait comme ça donc que le coronavirus du SRAS, il a essayé plusieurs fois, puis un jour, ça a marché, c'est parti, et puis là, la chaîne de transmission a pu se constituer. Peut-être qu'on aura la même image si on va faire des sérologies, donc des recherches d'anticorps, chez les personnes qui travaillent dans ce marché de Wuhan, et on se rendra compte que avant d'avoir réussi son émergence, le virus avait essayé plusieurs fois.
Olivier Lascar.
Ce qu'on y voit tout à fait clair par rapport à la période d'incubation du virus, et notamment au fait que la maladie soit contagieuse ou pas pendant cette période-là.
Alors, tout à fait clair, on ne peut pas encore le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a été très difficile finalement de travailler sur ces données tant qu'on ne disposait que des données qui nous arrivaient de Chine. Pourquoi ? Parce qu'en Chine, la situation est devenue très vite extrêmement difficile à contrôler. Ils avaient une véritable crise sanitaire. Ils n'ont absolument plus eu le temps de mettre le personnel à faire ces enquêtes épidémiologiques très précises qui vous permettent de savoir exactement comment reconstruire des chaînes de transmission et comment comprendre où sont les durées d'incubation. Et si je dis ça, c'est parce qu'il existe en épidémiologie une méthode qu'on appelle l'enquête des 100 premiers patients. Parce qu'on sait que sur les 100 premiers, les services sanitaires peuvent déployer tous leurs efforts pour faire ce travail de détective, reconstruire les chaînes. Et là, on peut faire des estimations qui sont fiables du nombre de reproductions, de la durée d'incubation et tout ça. Après, quand vous en avez plus, vous êtes obligé de reprendre ces mêmes personnels et les déployer au contrôle de l'épidémie. Donc les données agrégées qui nous arrivaient de Chine, on n'a pas appris grand-chose là-dessus, sauf de la modélisation mathématique pour laquelle on sait toujours qu'elle ne reste que des modèles. Après, quand l'épidémie s'est déclarée à l'extérieur de la Chine, là, il y a eu quelques enquêtes beaucoup plus fines. Aujourd'hui, tout converge pour dire que la durée d'incubation serait en moyenne autour de 6 jours. Ça va peut-être finir un petit peu moins, au maximum de 12 jours. Ce qui veut dire que la quarantaine de 14 jours, c'est-à-dire la durée d'isolement des contacts pour voir s'ils vont déclencher des symptômes, est bien choisie telle qu'elle l'est. Et il y a quelques histoires de chasse, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler, d'incubation à 24 jours, 27 jours, dont on ne sait pas si elles sont réellement bien documentées et qui de toute façon ne vont pas vous amener à faire changer une stratégie de quarantaine parce qu'elle serait très coûteuse, à la fois pour les gens mis en quarantaine et pour les services sanitaires qui doivent en assurer le suivi.
Un modèle intéressant pour essayer de comprendre justement le passage éventuel d'une forme asymptomatique, la contagiosité d'un patient asymptomatique qui est maintenant, je crois, reconnu par tous et qui, on l'a dit, est un des éléments difficiles de contrôle de cette infection, c'est les cas familiaux. Parce que là, on peut tracer très précisément le cheminement du virus, en sachant que dans une famille, certains ont été exposés parce qu'ils ont été à Wuhan ou parce qu'ils ont été à l'étranger. Et là, on peut effectivement tracer le virus. Et c'est comme ça qu'on a mis en évidence les premières transmissions à partir de personnes asymptomatiques.
Alors, la question, c'est évidemment ce qu'on appelle les barrières et les différentes formes de barrières de confinement. La Chine, on l'a vu, a une réponse très forte, hein, a bloqué, a complètement fermé des villes entières et des millions d'habitants. Malgré tout, malgré ces mesures de confinement, le virus a réussi à sortir. Alors, en fait, comment est-ce qu'on répond? Est-ce que les mesures de confinement sont nécessaires? Est-ce que ces barrières de confinement sont efficaces? Ou est-ce que, d'une certaine manière, compte tenu de ce qu'on vient de dire et de la contagiosité asymptomatique, qui est en fait des trous énormes dans les filets, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, Arnaud Fontanet. Est-ce qu'on est impuissant, finalement?
Pour reprendre un petit peu... Je distingue vraiment deux approches différentes. Il y a celle qu'on pratique au niveau individuel pour réduire la transmission. C'est tout ce qu'on a appris à faire depuis peu, qu'on vous avait déjà enseigné mais que vous aviez oublié, de tousser dans votre coude, mouchoir à usage unique, vous lavez les mains régulièrement. Ça, c'est une façon de se protéger. On peut mettre des masques quand on est du personnel médical exposé à des patients. Et là, on met des masques FFP2, ça n'a pas d'intérêt sinon. Mais bref, c'est des mesures barrières qui sont à l'échelle individuelle. Puis après, il y a un autre... versant du contrôle de l'épidémie, qui est ce qu'on appelle la distanciation sociale. Alors, si vous trouvez un meilleur mot, vous me le donnerez. Pour l'instant, c'est celui que je répète.
Confinement.
Alors, attendez, ça passe pas exactement la même chose. Parce que la distanciation sociale, ça commence par le fait que je vais pas vous serrer les mains. Et puis après, ça va être, on va dire, de pas aller dans les bars, les cinémas. On va fermer les lieux publics. On va interdire des événements qui peuvent être culturels, sportifs, etc. Et puis, ça finira éventuellement avec la mise sous cloche d'une ville comme on l'a fait pour Wuhan. Donc il y a toute une gamme de mesures. Et alors, autant on sait que ces mesures de protection individuelle que je mentionnais initialement, lavage des mains et tout, ça va réduire de 50% le risque de transmission. Il y a eu des essais randomisés. On a dit à des gens, vous vous lavez les mains une fois par heure. Ça. L'autre groupe, vous continuez comme d'habitude. On voit vraiment une réduction de 50% de la transmission des virus respiratoires et gastro-intestinaux. C'est comme si je vous disais qu'on avait un vaccin efficace à 50%. Vous me direz, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ben, ça s'appelle un savon.
Sachant que le vaccin contre la grippe est efficace à 30 ou 40%. Donc non, mais...
Ça dépend des âges.
Ça dépend des années.
Ça dépend des années. Mais bref, donc voilà, on a déjà ça. En revanche, toutes ces mesures de distanciation sociale, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est ça qui va rendre la gestion de l'épidémie extrêmement difficile, parce qu'on n'a pas de données scientifiques, en tout cas. On peut s'appuyer, bien sûr, de ce qu'on comprend des paramètres de l'épidémie, du bon sens aussi. Il y a des trucs, on se dit ça forcément, ce n'est pas une bonne idée, puis ça, finalement, peut-être. Mais c'est vrai que c'est des mesures qui n'ont pas été évaluées scientifiquement et sur lesquelles, pour nous, chercheurs, on est toujours très embarrassés quand on demande notre avis pour nous dire, alors, faire ça, est-ce que ça va marcher? Pour revenir sur Wuhan et le confinement, le problème, c'est qu'il a eu lieu trop tard. À partir du moment où ils ont mis la ville sous cloche, il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient parties. Il y a eu aussi le nouvel an chinois qui arrivait avec des mouvements de population, etc. Et du coup, ça a eu un effet sur les personnes qui sont restées sous la cloche et qui a pris élevé. Finalement, aujourd'hui, c'est vrai, à Wuhan, le nombre de cas a diminué, les hôpitaux se vident. On a des témoignages de gens qui y vivent comme des gens qui travaillent dans les hôpitaux qui le corroborent. Mais l'épidémie était déjà sortie et du coup, le confinement était trop tardif pour pouvoir être efficace.
Anne-Claude Crémieux.
Alors, je ne serais pas aussi négative sur l'absence d'impact et notre absence, je dirais, de données. Parce que, d'abord, pour la grippe, qui est un modèle simple et qu'on connaît bien, on sait très bien que la fermeture des écoles va limiter la contagion. On le sait très bien, quand il y a, en période de vacances scolaires, ça diminue la transmission.
Mais peut-être aussi parce que les enfants sont réservoirs.
Absolument.
De la grippe.
Vous avez tout à fait raison de le signaler. Parce que les enfants sont réservoirs, on le sait, alors que là, c'est possiblement pas le cas, ça reste une incertitude. Il y a, pour ce qui est de cette épidémie, certes, le virus est sorti de Chine, mais quand même, quand on voit la diminution des cas en Chine, on peut fortement s'interroger sur l'efficacité des mesures qui ont été prises. Et je prendrai deux autres modèles, qui sont des petits modèles, mais quand même très intéressants. Le modèle de Singapour et le modèle de Taïwan. Singapour est parti de 100 cas. Très vite, ils ont eu des foyers sans trouver, comme vous disiez, le patient zéro. Ils ont pris des mesures drastiques de ce qu'on appelle de distance sociale. Eh bien, il reste à 120 cas. Donc, si vous voulez, je crois qu'on a des modèles très intéressants à petite échelle.
Voilà, c'est l'échelle d'une ville.
Tout à fait. Je ne dis pas que ça marcherait en France, mais sur le plan, je dirais, de l'intervention publique, ce sont des modèles très intéressants pour arriver à des démonstrations d'efficacité.
Non, et c'est vrai, je partage tout à fait votre avis, à la fois sur l'effet des fermetures d'écoles, qui est sur la grippe qui est bien connue. Et alors Singapour, c'est vraiment, c'est amusant parce que c'est un modèle sur lequel je me suis intéressé parce que j'ai fait comme vous la même constatation. J'ai vu qu'ils restaient, etc. Ils ont été très exposés parce qu'il y a une population chinoise très importante à Singapour, donc ils ont eu leur premier cas. Voilà. Après, il faut savoir que Singapour, déjà, c'est un état très structuré. Très policé, tous les sens du terme, avec un niveau d'hygiène, un standard d'hygiène très élevé. Et puis, là, des mesures punitives. Je lisais, par exemple, que pour les expatriés qui respecteraient pas certaines des règles qu'ils ont, c'est le bannissement à vie de Singapour. C'est-à-dire qu'ils sont expulsés et ne pourront jamais y revenir.
Soyons clairs, je n'ai pas porté de jugement de valeur. Je porte un jugement scientifique.
On a entendu dans l'abondante littérature médiatique que crée cette épidémie, des gens dire des choses comme selon lesquelles finalement il n'y a que les pouvoirs dictatoriaux qui seraient en mesure de contenir l'épidémie, c'est-à-dire qu'il faut arriver à des décisions d'ordre autoritaire.
Voilà. D'autres choses intéressantes à Singapour qui sont par exemple pour les écoles, ils ne les ont pas fermées. En revanche, contrôle de température systématique de tous les enfants avant de rentrer dans l'école. Les transports en commun n'ont pas été fermés, mais ils étalonnent sur la journée les transports, c'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être selon un numéro de carte d'identité que vous avez, vous avez le droit de voyager le matin entre 8 et 9 et 16-17 l'après-midi. Et du coup, ils évitent ces périodes de concentration de population dans le transport en commun.
Et je crois d'ailleurs que c'est toute la difficulté des mesures barrières dont on est évidemment en train de parler aujourd'hui en France. C'est que ces mesures peuvent être très efficaces lorsque pratiquement elles sont appliquées à 99%. Et ce qu'on ne sait pas, au fond, c'est l'efficacité de ces mesures lorsque c'est des applications qui sont plutôt de l'ordre de 50 à 60%. C'est ça la vraie inconnue.
J'aimerais qu'on
c'est un peu comme la fermeture des frontières. Probablement, si, au-dessus de 99%, ça marche. Mais le problème, c'est que on est évidemment, pour nos pays, avec des frontières terrestres, on n'est évidemment jamais à 99%.
J'aimerais qu'on prenne du temps pour parler de la recherche, et de la recherche évidemment de remèdes, mais j'aimerais aussi qu'on dise un mot sur cette question justement de barrière de confinement. En France, nous sommes au stade 2. Que se passe-t-il quand on passe au stade 3? C'est quand même un changement radical. C'est-à-dire qu'au stade 2, on essaye encore de contenir l'épidémie. Si cette barrière-là cède, qu'est-ce qui se passe au stade 3?
Alors, le stade 3, c'est la phase d'atténuation. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus l'endiguement. On sait qu'on ne va plus pouvoir empêcher la propagation, mais atténuation, on veut freiner, ralentir l'épidémie. Pourquoi c'est important de ralentir l'épidémie? D'abord parce qu'on est actuellement en épidémie de grippe et que du coup, les personnes qui arrivent avec un tableau de grippal, on ne sait pas si c'est le nouveau coronavirus, la grippe, dans un mois, on devrait en être sorti. Ça a déjà commencé à décroître en Île-de-France.
Deux, la grippe.
La grippe. Oui. Deux, les lits d'hôpital et de réanimation pour les maladies infectieuses respiratoires, sont aujourd'hui occupés par ces patients qui ont la grippe. On peut espérer que donc dans un mois, il y aura quand même plus de lits disponibles pour des patients atteints de ce coronavirus. Trois, ce qui est très important et que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il faut étaler dans le temps et dans l'espace la survenue des cas sur le territoire français. Pourquoi? Parce qu'un pic épidémique très localisé sur une région va entraîner une saturation très rapide des lits d'hôpitaux et notamment de réanimation, parce que les patients qui doivent aller en réanimation, on ne pouvait pas les transporter à l'autre bout de la France. Donc, on redoute beaucoup ce pic épidémique et avec ces mesures freins que l'on met en place, on étale dans le temps et dans l'espace les cas, on soulage les structures sanitaires et on évite cet engorgement des services de réanimation. Ensuite, sur du moyen terme, si on gagne quelques mois, ça peut être la découverte d'un traitement qui serait efficace pour la prise en charge des patients. Et sur le plus long terme, là je parle de 18 mois, peut-être un vaccin qui nous aiderait dans la lutte contre cette épidémie.
Et on va justement parler de cette recherche de traitement et de vaccin tout de suite.
France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
Et à 16h45, suite de notre émission spéciale en partenariat avec Science et Avenir pour faire un point complet sur l'état de nos connaissances scientifiques sur le coronavirus, sur ce nouveau coronavirus, avec Arnaud Fontanet, directeur de santé globale à l'Institut Pasteur, et Anne-Claude Crémieux, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis. Parlons justement de recherche, pour dire peut-être une fois de plus que jamais l'effort de recherche sur un pathogène émergent n'aura été aussi rapide. Parce qu'on attend de dire, mais pourquoi au bout de 3 mois on n'a pas trouvé un médicament? Enfin, on n'a jamais été aussi vite sur ces pathogènes émergents, Arnaud Fontanet.
En tout cas, sur la découverte du pathogène, le séquençage complet de ce génome, il nous a fallu 4 semaines. Je pense que pour le sida, c'était 4 ans. Donc vous voyez quand même le temps gagné. C'est remarquable. Et puis c'est vrai qu'à partir de là, aujourd'hui, à partir de la séquence même du pathogène, on arrive à faire des reconstructions, des protéines virales, etc. Donc on a une gamme d'outils en bioinformatique, etc., pour du screening de molécules. Enfin, on vit à une toute autre période. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a un partage d'informations entre scientifiques qui va extrêmement vite. Et on parle toujours des effets délétère de la mondialisation quand on parle des maladies infectieuses émergentes. Mais ce qui serait important, c'est aussi de dire que pour la lutte contre les maladies infectieuses émergentes, le partage d'informations scientifiques bénéficie de la mondialisation.
Alors comment on travaille? Comment ça se passe quand on a identifié le génome, en tout cas la séquence ADN d'ARN viral? Comment est-ce qu'on travaille pour trouver un remède, Anne-Claude Crémieux? Vous levez les yeux au ciel.
Alors là, vous me posez une colle. Non, bien évidemment, je ne fabrique pas des médicaments, mais effectivement, c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a deux méthodes. Il y a la méthode qui consiste simplement à screener les médicaments existants. En gros, c'est ce qui est en train d'être fait. On prend tous les antiviraux anti-ARN qu'on connaît et on va tester in vitro leur efficacité sur ce nouveau virus. Et s'il y en a un qui apparaît plus intéressant, on va le tester. Test d'abord très rapidement chez les animaux, ça c'est très rapide, et évidemment, et c'est ce qui est en train d'être fait dans plusieurs pays, test chez l'homme contre placebo, c'est-à-dire contre rien, et on sait que plusieurs antiviraux sont testés avec des résultats qu'on espère en juin. Après, il y a toute l'ingénierie de fabrication des molécules directement par une connaissance du génome. Et là, je dirais que je laisserai les hyper spécialistes en parler.
C'est pas dans la salle.
Olivier Lascar.
Néanmoins, à propos des traitements, on a entendu ce matin que de premiers essais cliniques pourraient démarrer en France très prochainement. Je voulais savoir si vous aviez des choses à dire à cet égard. Et toujours sur la question des traitements, on a beaucoup parlé il y a une petite semaine de la chloroquine comme étant une piste intéressante.
Qui est un antipaludique. Hein.
Oui, il y a un papier qui a été fait en Chine sur la chloroquine, sur des tests sur des patients, hein, des tests in vivo. C'est une publi qui a été fortement médiatisé par la personne du professeur Raoult à Marseille, qui a fait des vidéos à ce propos, et qui présentait vraiment la chloroquine comme une hypothèse très intéressante. Qu'est-ce qu'il en est ?
Pour les antiviraux, il y a plusieurs pays, dont la Chine, dont la France, dont les États-Unis, qui travaillent sur une molécule, je vais la citer, c'est le remdesivir, qui a l'air de se distinguer, je ne sais pas si vous en êtes d'accord, par son activité intéressante. On teste aussi d'autres molécules, mais qui semblent moins tenir la corde, qui sont en fait des anti-rétroviraux. En ce qui concerne la chloroquine, je dirais comme la plupart des gens que aujourd'hui nous disposons en fait d'un résumé au fond d'études qui nous dit que on n'a pas l'étude entière, hein, qui nous dit que en réalité ça raccourcit la durée de la pneumonie. Même si c'était vrai, même si ça se contrôlait, si vous voulez, sur l'étude entière, il faut bien se rendre compte que c'est une activité, je dirais, qui pour l'instant n'est pas spectaculaire. Je prends toujours l'exemple des antibiotiques thérapeutiques qui sont ma classe thérapeutique de prédilection, faut bien le dire, et où vous prenez...
Qui, rappelons-le, ne fonctionne pas contre les virus. Hein,
malheureusement, voilà. Ne fonctionne pas contre les virus, mais vous prenez de la pénicilline dans une infection à pneumocoque, et en 24 heures, vous êtes guéri, vous n'avez plus de fièvre. Malheureusement, ces antiviraux, ça raccourcit la durée des symptômes, c'est un peu comme les antigrippaux, mais ce n'est pas une guérison au sens où on l'attend avec des antibiotiques et des bactéries.
Un mot, Arnaud Fontanet, sur la chloroquine, il faut en dire un mot même rapidement, parce que dans ces périodes épidémiques où on est encore dans des efforts de recherche, où on ne connaît pas encore exactement bien tous les fonctionnements de l'agent viral, ça n'est pas la première fois qu'on a des annonces sur le pas de la porte en disant on a trouvé quelque chose, avec des souvenirs assez tristes comme la fameuse cyclosporine dans 1985. La chloroquine, c'est la cyclosporine de 2020.
Alors, la chloroquine in vitro a souvent été trouvée efficace contre des virus émergents. Après, il faut regarder la concentration de chloroquine qui, ici, pour le nouveau coronavirus, inhibe la croissance du virus. Et quand même, les concentrations sont 10 fois supérieures à celles que on trouve dans le sang chez quelqu'un qui a pris la chloroquine à des doses thérapeutiques du paludisme. Donc ça supposerait que les doses de chloroquine à prendre deviendraient toxiques pour atteindre ces concentrations. Mais même indépendamment de ça, parce que ces études sont peut-être difficiles à extrapoler, on a effectivement vu la chloroquine utilisée dans le passé pour, de mémoire, traiter la grippe, dengue et chikungunya, et dans les essais randomisés, contrôlés en double aveugle, il n'y avait pas d'effet, et c'était publié dans des revues comme le Lancet, qui sont quand même des revues très solides.
Question justement sur la recherche, il y a la recherche d'un remède, il va y avoir ensuite la recherche vaccinale, pourquoi est-ce qu'elle est plus longue d'ailleurs que la recherche d'un remède, la recherche vaccinale?
Alors, pour le remède, c'est parce que là, ce que discutait avec Anne-Claude Crémieux, c'est le repositionnement de molécules, ça peut aller très vite. Après, si vous partez d'un traitement de zéro, vous êtes dans la même démarche qu'un nouveau vaccin, c'est qu'il y a une phase d'expérimentation chez l'animal d'abord. D'abord, il faut faire le concept, soit du médicament, soit du vaccin. Ensuite, il faut le produire pour qu'il soit utilisable pour une utilisation chez l'animal pour un premier essai. Puis après, vous passez chez l'homme. Et chez l'homme, vous avez la première phase où vous testez la tolérance, vous vous assurez que
la non-toxicité.
La non-toxicité de votre vaccin. Ensuite, vous regardez son immunogénicité, sa capacité à produire une réaction immunitaire, qu'elle soit des anticorps ou immunité cellulaire. Et seulement, enfin, vous passez à l'épreuve du feu, qui est la fameuse phase 3, où là, vous avez un essai contre placebo, vous donnez votre vaccin contre placebo et vous regardez si les personnes qui sont vaccinées sont protégées contre la maladie comparées aux non-vaccinés.
Question, juste, et, oui, Anne-Claude Camilleux.
Juste pour terminer là-dessus, je pense qu'il faut bien comprendre que pour le vaccin, les études de tolérance, c'est-à-dire les premières introductions du vaccin chez l'homme et sa tolérance sont évidemment primordial, parce qu'un vaccin s'adresse à des personnes qui sont saines, qui ne sont pas infectées.
Un vaccin prophylactique, parce qu'on peut avoir des vaccins thérapeutiques.
Absolument, vous avez tout à fait raison de le préciser. Un vaccin prophylactique s'adresse à des personnes qui sont saines, et bien évidemment, vous voyez bien que le profil bénéfice-risque doit être extrêmement favorable.
Un mot, on sait que pour Ebola, il y a un moment donné où on a court-circuité un certain nombre, justement, de niveaux d'essais cliniques, pour faire ce qu'on appelle des essais compassionnels, ce qui a été le cas d'ailleurs pendant l'épidémie de VIH aussi, où à un moment donné, on donnait des médicaments qui n'avaient pas été poussés jusqu'à la phase 3. Ça, pour accélérer, c'est possible, c'est envisageable, Arnaud Fontanet?
Alors, je pense quand même qu'aujourd'hui, la réglementation reste, est devenue vraiment très stricte sur l'expérimentation chez l'homme. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on raccourcit, on essaye d'obtenir des passages en priorité de ces dossiers sur des instances réglementaires. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les instances réglementaires vont être très fermes sur l'utilisation. Après, c'est vraiment la mobilisation de tout le monde pour que, justement, vos projets puissent passer très vite, parce que sinon, les délais d'attente habituels ne sont pas du tout compatibles avec la rapidité de cette épidémie.
Un tout dernier mot, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission. Je pense que c'est aussi une question que beaucoup de monde se pose. Est-ce que on en fait trop, les médias, les pouvoirs publics, avec cette maladie qui est finalement relativement bénigne? Est-ce que tout le monde surréagit? On n'a pas réagi comme ça pour le SRAS. On a essayé de réagir, mais ça a été un échec avec le H1N1. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud Fontanet?
Moi, je pense que sur le SRAS, on avait quand même beaucoup réagi. La grosse différence, c'est que le SRAS, finalement, en France, de mémoire, il y avait eu 7 cas, peut-être. Enfin, en tout cas, c'était une poignée de cas. Donc, on n'a pas vécu du tout de la même façon l'arrivée du SRAS que ce nouveau virus qui on le voit bien, se répand plus rapidement, est beaucoup moins sévère que le SRAS. Le SRAS tuait 10% des personnes infectées, hein, mais là, on est heureusement avec un profil de létalité bien inférieur. Maintenant, on est devant l'inconnu. C'est tout à fait normal. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'accompagner les différentes étapes de l'arrivée de ce virus, parce qu'il est très difficile pour nous de prédire où ça va aller, mais en revanche, à chaque étape, de donner toutes les informations dont on dispose pour que les gens comprennent et n'aient pas d'anxiété déplacée.
Anne-Claude Crémieux, en un mot.
Absolument. Vraiment, je pense que la meilleure façon que nous puissions lutter contre une épidémie, c'est d'arriver à informer les gens de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Et c'est comme ça qu'on leur donne les moyens de se protéger.
Et j'espère que c'est ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Arnaud Fontanet, merci Anne-Claude Crémieux, merci Olivier. Un mot sur le Science et Avenir de ce mois-ci.
Alors, il fait... En sujet de une, retarder le vieillissement, mais il consacre une grande partie de ses pages aussi au coronavirus, son évolution. Je peux dire aussi que la crise du coronavirus, elle est cartographiée tous les jours sur le site de Science Avenir, qui est un site quotidien.
Et on va suivre évidemment l'actualité de façon sérieuse et méthodique, cette actualité du Covid-19 dans la méthode scientifique. Et sur Science Avenir, on vous met une fois de plus le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Nominagué de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons du burn-out, Maddy, de l'étoile Bételgeuse, cette étoile géante dont la luminosité diminue étrangement. Mercredi, de l'agriculture cellulaire et des steaks en laboratoire. Jeudi, une émission spéciale maths, puisque ce sera la semaine des maths. Et vendredi, SF 100% féminine, puisque nous nous demanderons comment ce genre littéraire se fait le reflet ou pas des problématiques féministes qui agitent notre société. Demain à 16h, c'est le camarade Etienne Klein pour la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.